Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Vincent Alénaud, il est 3e vice-président du conseil départemental des Côtes d'Armor, délégué aux finances, au numérique et au contrat de territoire. Il est également vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération et maire de Plaintel. Il est venu en direct ce matin au micro de la matinale, je l'en remercie. Bonjour.
Bonjour à toutes et tous, merci de votre invitation.
Alors on va parler des choses qui fâchent comme ça dès le lundi matin, mais je crois que c'est aussi un petit peu votre délégation, je le disais en commençant, puisque vous êtes délégué aux finances. On est en train de voter le budget actuellement au département des Côtes d'Armor. Comment se passent les choix finalement de ce budget dans un contexte qui est quand même plutôt tendu et qui va quand même à l'économie? Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à faire, comme on dit, la bascule?
Le contexte, il est plutôt inédit et les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes, puisque on constate que les recettes, eh bien, elles sont de moins en moins importantes et beaucoup plus volatiles, parce que liées à l'activité économique. Les départements ont perdu ce qu'on appelle le pouvoir de taux, donc la possibilité de lever des impôts. Et notre budget, il est fonction de la TVA énormément et des recettes de TVA. Et puis également des recettes qui sont liées au DMT, ou les droits à mutation en titre onéreux, c'est-à-dire les ventes d'immobilier dans les Côtes d'Armor. Et bien, tout ce marché économique, il reste volatile, donc les recettes, eh bien, sont de plus en plus fragiles, et les dépenses, dans un contexte tendu, eh bien, elles augmentent avec le choix de l'équipe départementale en place de soutenir la protection de l'enfance, mais aussi, et on le voit dans l'actualité, notamment dans les Côtes d'Armor, de soutenir eh bien, le vieillissement, le bien vieillir dans les Côtes d'Armor, avec l'accompagnement nécessaire pour les EHPAD, et nécessaire aussi pour les SAD et nécessaire pour tout le suivi ambulatoire au domicile, pour permettre aux gens de bien vieillir à leur domicile. Donc contexte un peu particulier. Et puis dans ce contexte-là, il y a également des dépenses énergétiques importantes. Tout le monde le sait, on le voit tous sur nos dépenses quotidiennes. Et par exemple, pour le département des Côtes d'Armor, eh bien, la facture d'électricité, c'est plus 4,4 millions d'euros pour cette année. Et on sait que le gaz va aussi augmenter. Donc vigilance, et puis on le sait aussi, le département, c'est 3200 agents, sans lesquels l'action du département ne serait rien. Eh bien, il a aussi fallu augmenter le point d'indice, et c'est tout à fait normal de tous ces agents. Point d'indice, toutes les mesures catégorielles et tout le choix que nous avons fait, nous, l'équipe, pour améliorer leurs revenus indemnitaires, eh bien, tout ça, c'est une dizaine de millions d'euros. Donc, dans ce contexte particulier, eh bien, il nous faut aller dans cette préparation budgétaire, aller chercher 18 millions d'euros.
18 millions d'euros, donc c'est pas une paille comme l'on dit. Est-ce qu'il y a des choix cruels parfois? Bon, on a vu que le département a axé beaucoup sur le social, hein, pour prendre un terme un peu générique. Est-ce qu'il y a des choix parfois cruels? Est-ce que il va y avoir des postes qui vont être à la baisse cette année dans ce budget?
Alors, choix cruel, il y en a. Dans le département des Côtes d'Armor, nous n'en sommes pas encore là, mais la semaine dernière, il y avait une réunion avec l'Assemblée départementale l'Assemblée des départements de France, et les présidents de deux départements, la Meuse et j'ai oublié l'autre, les Ardennes, nous précisaient qu'ils avaient depuis déjà quelques temps stoppé leur politique volontariste. Donc ça pourrait être une des solutions, mais c'est pas ce que nous souhaitons mettre en place, et l'idée, c'est de plus avoir un effort contributif, et que chacun des délégations, des périmètres, donc des vice-présidents et des conseillers délégués, avec ces directions, puissent faire des efforts pour qu'on aille chercher ces 18 millions d'euros. Alors, une répartition, si vous voulez.
Et il faut l'expliquer aux Costa-Mauricains qui demandent beaucoup de choses. On demande que nos routes soient mieux entretenues, on demande que nos collèges fonctionnent. Voilà, là, c'est quelques exemples. Il y en a d'autres. Comment expliquer aux Costa-Mauricains, justement, ce contexte, difficulté de contexte?
La difficulté de contexte, elle est aussi relativement simple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, budgétairement parlant, et on va se référer au budget de chacun, vous avez vos recettes qui diminuent et vos dépenses qui augmentent, eh bien, il faut faire des choix, il faut arbitrer, et donc la solution n'est pas d'aller à minima, mais la solution est d'optimiser, de rationaliser, et puis d'être très vigilant sur le fonctionnement de toutes ces directions, et d'aller aussi, en plus de cette rationalisation, chercher de nouvelles recettes auprès des partenaires institutionnels que peuvent être la région, l'État et l'Europe.
Alors, l'Europe, ça peut être une ouverture. On dit que l'État est un peu, a du mal à ouvrir son portefeuille. Est-ce que c'est vrai?
Alors, je veux dire que c'est vrai, aujourd'hui, l'État fait des efforts, notamment au niveau du fonds vert, et on voit qu'il souhaite accompagner la transition environnementale qui est une nécessité, et toutes les collectivités ont cette attention forte, le département là, à travers ses contrats départementaux de territoire, et notamment c'est des EPCI que nous allons voter prochainement le 6 novembre en Assemblée délibérante.
Alors les EPCI, pour nos auditeurs, hein, ce sont les communautés d'agglomération ou communautés de communes.
Tout à fait. C'est des établissements publics de coopération intercommunale, donc avec toute taille sur les Côtes d'Armor.
Donc, difficulté pour trouver des recettes, difficulté pour pouvoir équilibrer. Et puis, on a les grands enjeux de demain. Je le disais en commençant, hein, vous êtes également délégué au numérique. Aujourd'hui, l'enjeu du numérique est important pour un département tel que les Côtes d'Armor. Comment ça va se traduire dans les années qui viennent? Et là, on ne va peut-être pas parler forcément de finances, mais en tout cas de développement.
Mais l'idée, c'est de le département, en tout cas en tant que chef de file du social, 60% de notre budget est dédié au social. Eh bien, l'objectif, c'est d'éviter la fracture numérique et également la fracture sociale. Donc, une des volontés, mais le département ne peut le faire seul. Donc, il va jouer un rôle de facilitateur et travailler avec les communautés de communes, avec les communes, mais aussi avec la région et l'État. J'y reviendrai tout à l'heure pour développer le numérique dans chacun de nos territoires, avec la ferme volonté d'être un animateur local et de développer des lieux de vie numérique. Aujourd'hui, nous avons 170 lieux numériques qui sont identifiés dans les Côtes d'Armor, mais ces lieux numériques peuvent être un simple ordinateur mis à disposition dans une mairie ou dans une médiathèque, ce qui est déjà un premier niveau. L'objectif, c'est de construire une dynamique du numérique et de passer à des lieux de vie numérique ou à des tiers-lieux avec une représentation des collectivités, des associations et pourquoi pas des entreprises privées. Dans certains endroits, on voit des espaces de coworking qui sont communs et qui viennent permettre aux citoyens de travailler sur leur territoire et de rester habiter sur le territoire costarmoricain, ce que nous cherchons absolument à faire, parce qu'on est devenu le département le plus vieillissant de Bretagne. Donc il faut fixer les jeunes et leur permettre de rester travailler sur le secteur.
Et il ne faut pas que la fracture soit non plus avec les grandes agglomérations ou les villes moyennes, par rapport par exemple à la campagne. On entend beaucoup dans notre campagne les gens qui se plaignent de ne pas avoir toujours accès à la fibre. Alors là, même si ce n'est pas dans les délégations des Côtes d'Armor, et encore que...
Ça l'est, à travers Mégalis, ça l'est plus ou moins. Oui.
Alors, complètement même. Aujourd'hui, il y a cette fracture. Alors la fibre arrive à grand-peine. Est-ce que là, le département peut jouer le rôle de facilitateur, je vais dire peut-être avoir un côté un peu plus coercitif en disant, il faut la fibre absolument pour les gens qui sont en campagne et qui ont plus de mal peut-être que ceux qui sont en agglomération, près des agglomérations.
Alors, le déploiement de la fibre, effectivement, il a mal commencé, puisqu'il s'est fait en trois phases, on va faire très vite, mais la première phase, le choix de Mégalis, qui est le syndicat mixte, qui est porté par la région Bretagne, les quatre départements bretons et les 60 collectivités ou communautés de communes bretonnes, et a été de déployer en se disant on va faire appel aux entreprises locales sur cette première phase. Et puis, il a manqué de coordination sur cette première phase, des fortunes diverses avec des entreprises qui peuvent déployer facilement, d'autres qui ferment, d'autres qui ont qui ont pu connaître des difficultés économiques. Donc, le choix a été fait sur la deuxième et troisième phase d'avoir un seul opérateur qui coordonne toutes ces actions et qui a fait appel à de petites entreprises locales. Le fonctionnement est beaucoup plus opérant. Et donc là, on est en train de rattraper notre retard et on devrait pouvoir tenir les engagements de fibrer toute la Bretagne pour fin 2026. Et après, ça, c'est la question technique, c'est l'arrivée de la fibre, les tuyaux. Maintenant, ce qu'il nous faut travailler pour éviter cette fracture, c'est de développer les usages et que chacun soit en capacité, au niveau des collectivités, mais aussi des communes, de pouvoir développer un réseau d'acteurs, un réseau de personnes motivées, mobilisées pour développer ces usages du numérique et être en capacité de savoir se servir d'un ordinateur, d'Internet, et d'aller faire ces démarches, notamment les démarches que l'État nous impose.
Alors avec aussi, au titre de l'utilisation, des demandes qui n'a pas entendu souvent dans son entourage, les gens dire ben oui, voilà, moi je dois envoyer un papier au conseil départemental, je suis obligé de l'envoyer par la poste, en recommandé parfois lorsqu'il s'agit d'un papier important. Est-ce que là aussi on peut simplifier, on peut arriver à un écosystème numérique qui permettrait de faire des démarches directement en ligne? Est-ce que ça fait partie du futur, par exemple, pour le conseil départemental?
Alors, c'est ce qui se fait déjà, mais en fait, le fonctionnement n'est peut-être pas opérant. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plusieurs services de cette nature qui existent. Vous pouvez saisir des opérations en ligne avec l'État, avec la région, avec le département, voire avec votre collectivité, votre communauté de communes. Et l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les services de l'État et de la région sur une plateforme servicielle qui fait que le concitoyen soit en capacité, lui, d'aller sur cette plateforme et de ne pas s'occuper, si c'est un service de l'État, du département ou de la région, mais qu'il puisse avoir une réponse à sa question et traiter la situation administrative de façon la plus simple possible. C'est l'objectif, le vœu pieux.
Voilà, une forme de plateforme universelle,
c'est
finalement,
exactement ça.
Pour les démarches. On va parler aussi de l'actualité du moment, parce qu'elle a forcément une répercussion sur nos vies à tous, sur un département tel que les Côtes d'Armor. On voit aujourd'hui des guerres, hélas, un petit peu partout dans le monde. On a la guerre en Ukraine qui est toujours là, on en parle un petit peu moins. Elle a été un peu cachée, si vous me permettez le terme, par la guerre entre Israël et la Palestine. Est-ce que il y a, par exemple, dans le cas de réfugiés qui arriveraient, on peut imaginer de Palestine, des dispositifs qui sont mis en place ici dans le département des Côtes d'Armor, qui fait beaucoup pour les réfugiés d'ailleurs?
Alors, il y a un accompagnement qui est mis en place pour les jeunes, mais on a vu avec l'élan de solidarité qui est apparu au moment de la guerre en Ukraine, que les Français étaient capables de cette solidarité et que de façon générale, dans les Côtes d'Armor, il y avait cette dynamique et que spontanément, les portes se sont ouvertes pour accueillir les réfugiés et éviter que les personnes qui subissaient ce conflit ne soient en trop grande difficulté. Donc il y a certainement des solutions par rapport à cette question précise. Je ne peux pas répondre. Je peux vous préciser ce qui a été fait dans le cadre de l'Ukraine plus facilement.
On voit quand même que ça amène aussi des tensions. On a vu à Calac. On ne va pas revenir sur l'épisode. On en parlera d'ailleurs cette semaine. Sur l'antenne de Bretagne 5, mais il y a eu cet épisode de Calac. On a senti qu'aujourd'hui, il y a une société fracturée. Les Côtes d'Armor n'échappent pas à cette fracture sociétale. Est-ce que pour un élu tel que vous l'êtes, Vincent Alénaud, c'est difficile de, j'allais presque dire, d'évoluer aujourd'hui face à vos concitoyens?
Eh bien, c'est vrai que vous avez raison, on voit des actions, des incivilités croissantes et plusieurs élus qui souffrent des relations avec la population. Vous avez évoqué Calac, situation tendue pour l'accueil de migrants, mais d'autres situations que j'ai en tête à Plougrescant, où pour une histoire de pôle médical, la population se divise et les câbles de frein de la voiture du maire ont été sectionnés. Le maire de Saint-Jacut a reçu par la poste une balle. Bref, une situation qui est quand même préoccupante, mais qui ne m'empêche pas de garder ma motivation et de continuer à travailler avec les conseillers municipaux de ma commune et tous les acteurs, les maires et les élus du territoire, parce qu'on a une réponse à apporter à la population. Et cette situation actuelle, elle est tendue, mais on va vers de jours meilleurs, je l'espère.
Les jours meilleurs, c'est le dialogue aussi, c'est le rôle d'un élu. Alors là, je vais m'adresser au maire, au maire de Plaintel que vous êtes dans les Côtes d'Armor, je le dis pour nos auditeurs qui sont loin. Est-ce que c'est facile le dialogue avec la population à Plaintel? Est-ce que ça se passe bien?
dire que, ce soit facile, pas tous les jours, bien évidemment, mais charge à nous, les élus, d'aller au contact de la population. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a les vœux traditionnels, qui sont des moments d'échange avec la population, bien évidemment. Il y a aussi des visites de quartier, c'est-à-dire se déplacer in situ et être en capacité d'écouter et de constater ce qui dysfonctionne. Alors, c'est souvent physique, mais c'est aussi, finalement, les relations et tout ce qu'on peut améliorer sur la commune. Et donc, ce genre de visites sont capitales. Et puis après, charge à nous, les collectivités, eh bien de permettre aux habitants de participer à l'évolution et au devenir de leur commune. Vendredi soir, nous travaillons sur un plan guide. C'est une vision prospective de l'aménagement de la commune entre les 5 et 40 prochaines années. Et donc, pour ce faire, eh bien, nous avions coopté le tissu associatif et les personnes de la commune pouvaient s'inscrire à un temps d'échange pour réfléchir ensemble de la préfiguration du plantel de demain, comment on le positionne, quels sont les besoins, quelles sont les attentes de la population, comment les prend-on en compte. Et puis après, il y a les attentes aussi des pouvoirs publics, renaturer nos bourgs, les massifier, et en étant bien sûr vigilant, parce que quand on massifie, on densifie un bourg, mais on massifie et on densifie également les difficultés. Donc il faut aussi avoir tous ces éléments à prendre en compte. Et en fait, il s'agit aussi d'une discussion, beaucoup de communication et de présentation pour démystifier les problèmes de demain. Et en tout cas, montrer que nous, les élus, on a besoin de la population pour construire ensemble nos communes et nos territoires de demain.
Voilà ce qu'on appelle, d'un terme générique, la démocratie participative.
Exactement.
On en parle beaucoup actuellement. Je reviens aux Côtes d'Armor. Allez, il nous reste 5-6 petites minutes. On parlait tout à l'heure de l'accueil des migrants. Les Côtes d'Armor ont fait beaucoup, hein, je le disais. Comment vous voyez, par exemple, la décision en pleine réflexion sur la loi immigration, hein, actuellement au Parlement, on voit le territoire de Belfort qui a décidé de suspendre des aides, par exemple, aux mineurs isolés. C'est pas le cas, évidemment, pour les Côtes d'Armor. Est-ce que vous sentez là aussi une fracture entre les différents département en France? Est-ce que il y a quelque chose qui se passe? Je ne vais pas parler d'élitement quand même, mais une forme de fracture.
Une fracture, peut-être. La preuve, c'est le choix du territoire de Belfort. Moi, ce que je note, c'est que au niveau de l'accompagnement des mineurs non isolés, eh bien, il y a une arrivée plus importante là, tout dernièrement, sur les Côtes d'Armor. Ça veut dire que ça valorise la qualité de notre accueil, mais ça questionne aussi le fait que des jeunes arrivent plus spécifiquement sur les Côtes d'Armor. Ça veut dire qu'il faut, à mon avis, que nous, avec les autres départements, on ait une approche plus globale et uniforme, et de faire en sorte que les mineurs non accompagnés puissent l'être sur l'entièreté du territoire français, et pas seulement dans quelques territoires spécifiques, comme les Côtes d'Armor l'est en ce moment, parce qu'il est reconnu et identifié comme solidaire.
Voilà, donc un meilleur équilibre dans l'accueil des jeunes qui arrivent seuls, hein, sur le territoire français, donc dans les départements.
Ce qui me semble important pour qu'on ait une meilleure approche, et puis de le lier aussi parfois aux baisses de population, même si on a vu que du côté de Calac, eh bien, la population avait du mal à l'accepter. On voit que dans plusieurs autres territoires des Côtes d'Armor et d'ailleurs, partout en France, eh bien, la venue de mineurs non accompagnés ou de migrants, elle est aussi qualitative pour la vie d'une commune, parce qu'elle vient la redynamiser et elle fait souvent sens.
Alors, plus largement, aujourd'hui, on voit les débats politiques au niveau national. J'imagine que ça a des répercussions au niveau local, au niveau du département. Comment vous voyez cette grande séquence politique compliquée du moment ?
Par rapport quoi
par rapport à ce que ça peut impacter dans le département. Là, on voit qu'il y a une grande... Alors, on parlait des migrants, par exemple. Ça suscite un débat. Là, c'est un petit peu le cœur du débat du moment. Est-ce que, là encore, il y a des fractures politiques? Et vous, dans le département des Côtes d'Armor, vous êtes aussi, j'allais dire, presque impacté par ces fractures politiques qui sont souvent nationales, mais qui rebondissent ici?
Alors, dans l'approche du département des Côtes-d'Armor, vous avez bien saisi que la majorité actuelle, c'est une gauche plurielle, et vous avez raison, avec des composantes différentes qui vont des écologistes aux socialistes, aux communistes, et à la gauche plurielle de façon générale, donc avec des approches différentes, mais l'important, en tout cas, c'est de conserver notre unité et de porter une politique globale qui soit réfléchie. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, on met l'accent sur le social, sur la protection de l'enfance, qui est un dispositif aujourd'hui qui est en peine dans le département des Côtes d'Armor, mais dans de nombreux départements de France. Et donc, toute cette approche spécifique avec l'accompagnement des besoins, enfin des enfants qui ont des besoins spécifiques, et puis la volonté aussi d'accompagner, je le disais tout à l'heure, le bien vieillir. On attend tous la loi de l'État avec la loi grand âge. J'ai l'impression qu'elle ne viendra jamais. Toujours est-il, les besoins sont croissants. Et en fait, aujourd'hui, on voit que dans l'accompagnement territorial de nos concitoyens, eh bien, c'est un enjeu crucial, un enjeu majeur de permettre aux gens de bien vieillir sur leur territoire et puis finalement de libérer pour que nous, les collectivités, on construise du logement dans nos bourgs et qu'on permette à de jeunes couples d'arriver dans les logements qui étaient autrefois occupés ou auparavant occupés par ces seniors. Et donc, c'est un savant dosage qui nous attend.
Alors, savant dosage, alors, cette loi que vous appelez de vos voeux qui ne vient pas, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, des fois, pour prolonger un peu ma question précédente, qu'il y a une forme de manque d'approche du terrain au plus haut niveau par rapport à ce que vous vivez, les élus de terrain ? Est-ce qu'au niveau national, on a un peu oublié le terrain, on a un petit peu oublié ce que font remonter les élus ?
Bah, probablement, en fait, les priorités sont autres, ça c'est une certitude, mais cette approche du bien vieillir, pour moi, elle est capitale, parce qu'elle a un enjeu sur le développement de nos communes. J'essayais d'en faire très rapidement la démonstration, mais on libère des espaces fonciers, on refait venir des jeunes dans nos campagnes, on évite la désertification, ça permet aussi de redynamiser les commerces, de redynamiser le cœur de bourg, donc c'est capital. Et cette loi à grand âge, elle est attendue, oui, par nous, les élus de terrain, pour qu'on ait une réponse et une possibilité d'accompagner. Aujourd'hui, vous voyez, plein de maires des Côtes d'Armor, puisque le collectif est parti de là, font part de leurs difficultés dans la gestion des EHPAD publics, parce qu'ils n'arrivent tout simplement pas à payer les factures d'électricité. Ça, c'est fort dommageable. Alors, comment accompagner au niveau soins, au niveau animation des seniors dans ce genre de conditions ? C'est compliqué.
Alors, il y a aussi un grand enjeu, c'est la culture. Alors, c'est peut-être pas votre spécialité au département, mais aujourd'hui, la culture permet à tout un chacun de pouvoir dialoguer, de pouvoir comprendre, de pouvoir se comprendre parfois, de ne pas avoir peur de l'autre aussi, on pourrait le rajouter en prolongement. Est-ce que c'est aussi quelque chose d'important pour un département comme les Côtes d'Armor qui est très culturel ?
C'est capital. Et puis en fait, l'idée aussi au niveau de la culture, c'est qu'elle infuse. Et il est important d'avoir de grands événements identifiés, reconnus, de type concert, comme ce week-end, il y avait Carnaval au Rock à Saint-Brieuc, qui était un concert spécifique qui draine un autre public car rock, par exemple.
Une institution, quelque part.
Exactement, vous avez raison. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, il y a ces grands événements, et puis derrière, il y a aussi tout plein de petits événements qui sont faits et qui existent dans nos campagnes, dans le canton de Plaintel, que ce soit à Quessoy, Plaintel, ou à Saint-Billy. Peu importe, en fait, ce que je voulais dire, c'est que la culture, elle se doit aussi d'être une culture de proximité. Et c'est à nous, les collectivités, souvent les communes, d'encourager, d'accompagner nos associations pour promouvoir du théâtre, pour promouvoir des arts de la rue, pour promouvoir également tout événement sur la commune, d'expositions, de peintures, qui permettent à tout un chacun de sortir un petit peu de ses tracas quotidiens et de s'évader. Et cette culture venant nous ouvrir et contribuer à une dynamique plus positive quand on voit le climat morose actuel.
Voilà, je m'attendais à ce que vous en parliez de ce climat morose. On va terminer, il nous reste une poignée de secondes sur le budget. Il va être voté prochainement. Quand est-ce qu'on saura La finalité de ce budget des Côtes d'Armor.
Ah bah ça, ce sera pour la fin d'année. Mm-hmm. Pour la fin d'année, là déjà, on va commencer le travail avec toutes les directions. C'est-à-dire que c'est un travail de préparation, un travail de longue haleine. Et les rencontres se font en bilatéral entre les services des finances et les services de chaque direction ou de chaque conseiller délégué, que ça aille de la direction environnement, protection de l'enfance, autonomie des personnes âgés, mais également la culture, on en parlait, le sport, etc. Donc ce sont des rencontres bilatérales qu'on fait en bonne intelligence pour essayer d'optimiser notre fonctionnement sans pour autant renier nos marges de manœuvre.
Alors le département des Côtes d'Armor est un département, on disait, jadis où l'on passe, aujourd'hui on s'y arrête. Qu'est-ce qui fait qu'on s'y arrête ? C'est la question subsidiaire de ce matin.
Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on s'y arrête ? C'est son charme, on va dire. Et en fait, on a la chance d'être un département à la fois littoral et rural. Et ça, c'est ce qui fait notre force. Parce que derrière, on est identifié pour des événements culturels sur l'entièreté de notre territoire. Mais aussi, on sait qu'on peut offrir aujourd'hui, les gens sont plus, peut-être davantage proches de la nature. Et on peut offrir des possibilités de tourisme vert, des possibilités de sport nature et de conjuguer aujourd'hui de la randonnée, du VTT, de la course à pied, avec une mise en valeur de notre territoire agricole et puis aussi une mise en valeur de notre restauration et du bien manger avec de la production locale.
Et avec des voies d'accès quand même de plus en plus pratiques, il faut le dire. Alors, il nous manque un peu de ferroviaire, peut-être vers le sud de la Bretagne, mais ça, c'est un autre débat.
C'est un autre débat, mais vous avez tout à fait raison. Mais ce projet ferroviaire, il a été abandonné il y a de nombreuses années. Et aujourd'hui, pour le faire évoluer, c'est très compliqué. Peut-être des fonds d'État ou des fonds européens, mais en attendant, c'est très complexe. La dernière chose que je voulais dire sur la force des Côtes d'Armor, c'est aussi le littoral. Et on vient aussi dans les Côtes d'Armor parce qu'on a une côte et qu'elle est belle et charge à nous, au niveau de tous les élus et par exemple de Côte d'Armor Destination qui gère le tourisme aussi dans les Côtes d'Armor, de faire en sorte que nous facilitions ces transitions entre la mer et la ruralité et qu'on fasse, une fois que le public est arrivé sur nos côtes, qu'on les fasse venir dans nos terres qui sont aussi très riches.
Voilà, le message est passé sur les ondes et à n'en pas douter, les vacances arrivant, nous devrions avoir quelques visiteurs dans les Côtes d'Armor, quelques touristes. Allez, on va prendre le terme générique. Merci infiniment, Vincent Alénaud, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes 3e vice-président du Conseil départemental des Côtes d'Armor, délégué aux finances, au numérique et au contrat de territoire. Vous êtes également vice-président de Saint-Brieuc-Armor-Agglomération et maire de Plaintel. C'est important de le dire. Merci. Merci beaucoup.
C'est le premier mandat, c'est le plus important.
Et c'est le plus important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Belle journée.
Je vous remercie de votre accueil.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.